Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale, hein? Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère.
Chef, Monsieur Hank, et si vous voulez bien m'aider, je vais vous faire une démonstration. Vous vous rappelez que le jour de sa mort, Laura Palmer a écrit les mots suivants sur son journal, nerveuse en pensant au rendez-vous avec J ce soir. Nous allons nous concentrer essentiellement sur J. Harry, quand je vous le demanderai, vous voudrez bien lire à haute voix les noms que j'ai écrits sur ce tableau.
Bien, chef.
Et maintenant, Hank, tenez-vous ici, et vous allez placer ce seau de pierre que je puisse les attraper. Mettez vos gants de caoutchouc, s'il vous plaît. Vous, Andy, reculez. Tenez-vous près de la bouteille. Lucie, prenez ce morceau de craie. Et si je touche la bouteille, après que le shérif ait cité un nom précis, vous faites un repère à la droite de ce nom. Oh, chef, j'ai failli oublier. Quand vous citez le nom, il faut me rappeler brièvement ses relations avec Laura Palmer. Vous êtes prêt?
Oui, je suis prêt. James Hurley, le petit ami secret.
James Hurley.
C'est quelque chose qui va absolument disparaître du cinéma de Lynch après Twin Peaks, en même temps que disparaissent la dernière scène où un élément de générosité ou de douceur ou de gentillesse apparaît, c'est dans Lost Highway, et c'est une scène tout à fait secondaire entre le père de Pete, le second personnage, enfin la deuxième apparition, la deuxième forme que prend le personnage principal, et la petite amie de Pete, Sheila. Sheila vient, c'est que Pete la trompe avec le personnage joué par Patricia Arquette, Alice, et pleure, et le père de Pete la prend dans ses bras. Et là, on a une musique qui est totalement réminiscente de Twin Peaks, et on comprend que c'est quelque chose que le cinéma de David Lynch a perdu, tout cet élément-là. Et c'est assez délicat à interpréter, et c'est en tout cas très triste à expérimenter quand on a suivi le cinéma de David Lynch en direct, c'est-à-dire qu'on a suivi la succession des films, que ce soit Blue Velvet, Wild at Heart, où il y a le plaisir, la gentillesse, la bonté.
Et l'amour passionnel, qui en plus finit bien.
Exactement. Tous ces éléments-là, qui sont des éléments qui vont disparaître entièrement de son cinéma pour rentrer dans un cinéma qui va beaucoup être un cinéma véritablement de l'angoisse et des signes équivoques et des passions dangereuses. Et ça, à partir de Lost Highway, que ce soit Lost Highway, Mulholland Drive ou Inland Empire, en tout cas le cinéma de Lynch va être beaucoup plus ténébreux et va être curieusement très peu gourmand. Et le corps du cinéaste aussi va être beaucoup plus maigre. Si vous vous souvenez, Lynch avant est un petit gros. Et à partir de Lost Highway, il est mince. Il est presque beckettien de minceur.
Mais alors, pour rester sur la série elle-même de Twin Peaks, parce que finalement, on a peu parlé de la forme elle-même et de l'intérêt pour Lynch de faire une série. Il y a quand même un problème, y compris, je pense, pour les fervents défenseurs de cette série, puisque la série ne laisse jamais indifférente pour ceux qui connaissent un peu Lynch. Certains la défendent jusqu'au bout. Ça a l'air d'être votre cas, pas comme tellement, alors que d'autres, au contraire, Pierre hurle au scandale en disant que cette série est ratée. Bah, que
répondez-vous ? Qui ose dire ça ?
Et alors, non, mais justement, je vais me faire l'avocat du diable. Que répondez-vous à ceux qui vont vous dire, et quand même, assez justement, il me semble, que le problème de cette série qui fait 30 épisodes, ouais, c'est qu'on connaît l'assassin de Laura Palmer au 15e épisode.
Ouais, c'est vrai.
Et qu'ensuite, du coup, la série, bon, certes, continue, on reste avec les personnages, mais ce qui a donné sens à la série, vous l'avez dit vous-même, ouais, c'est ça qui ouvre la série. Laura est morte, ça ouvre un cycle, comme vous avez dit, donc on va essayer d'explorer ce cycle jusqu'au bout. Ah, ouais. Celui-ci s'arrête au 15e épisode, que reste-t-il pendant les 15 autres épisodes? Quel intérêt de continuer la série?
Ah bah, en fait, le véritable sujet apparaît à ce moment-là. Maintenant, je suis d'accord avec vous, il y a des épisodes qui sont vraiment nuls à chier. Et tous ceux où Dale Cooper a une espèce de chemise à carreaux de bûcheron, et où en fait, l'intrigue principale, c'est qu'un con a foutu de la cocaïne dans sa voiture, et donc on l'accuse de faire du trafic de drogue, bah ça vaut pas un clou, hein, on est d'accord. Il y a 6 ou 7 épisodes qui sont vraiment totalement pourris. Et après, ça reprend difficilement. Et en plus, le deuxième méchant principal, Wyndham Earl, a un grand défaut, c'est qu'il est visible par rapport à un ennemi invisible comme Bob, qui évidemment est très très envoûtant, tandis que Wyndham Earl en fait des caisses et pas fantastique et tout ça. Mais le sujet principal arrive quand même. Et le sujet principal, c'est la découverte du centre contre-initiatique principal, le centre contre-initiatique de la ville de Twin Peaks, à savoir le cercle des 12 sycomores. Et ça, c'est le véritable sujet qui est là, de toute façon, depuis le départ. Parce que si vous vous souvenez d'un rêve qui apparaît dès le deuxième épisode de la série, on voit ce cercle des 12 sycomores représenté par un cercle de 12 bougies autour desquelles on voit Bob et l'homme avec un seul bras.
Le manchot.
Le manchot. J'allais dire parler, mais c'est pas vraiment parler, c'est plus de l'ordre de la prière ou de l'invocation. Donc je cherchais un verbe adéquat pour décrire leur activité. Psalmodier probablement, voilà. Et donc là se joue véritablement l'enjeu. Mais...
From the mind of David Lynch comes a modern day masterpiece, so startling, so provocative, so mysterious, that it will open your eyes to a world you have never seen before.
Une fois n'est pas coutume, je suis entré en David Lynch par le commencement. Et le commencement, en l'occurrence, c'était Eraserhead. C'était le début des années 80, mais ça ne se voyait pas, à moins que ce ne soit la fin des années 70. Question musique, ça planait sévère et c'était très sonore. Il y avait le cosmos, un trou noir, un trou blanc, tout un programme. J'étais sonné. Quand Elephant Man est arrivé, c'est cette petite ritournelle qui m'a trotté dans la tête. Ça insistait, mais quelques temps plus tard, Dune a balayé tout ça. Et là, la faute de goût. C'est Toto, je veux dire le groupe, qui s'était chargé de la musique. Cette fois, on était bien dans les années 80 et j'aurais préféré être ailleurs. Ça aurait pu s'arrêter là, mais heureusement, il y a eu Blue Velvet et la chanson de Bobby Vinton, d'abord en suspension.
She wore blue velvet.
Puis reprise fragilement par Isabella Rossellini et Angelo Badalamenti. La magie était en train d'opérer, je n'allais plus jamais décrocher. Étais-je dans les années 50? Je ne savais plus très bien.
A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes.
Dream. road. We're giving our neighbor a joyride. Let's get on with it. Let's fuck!
En fait, par la musique, je découvrais que Lynch était le nom d'un pays où le temps n'existait plus. Alors, In Dreams de Roy Orbison par Dean Stockwell et Dennis Hopper. Une chanson de doo-wop dans Mulholland Drive. Ou Love Me Tender du grand Elvis, repris par son fantôme, je veux dire Nicolas Cage à la fin de Sailor et Lula.
Love me sweet, never let me go.
Tout ça c'était Lynch, un point c'est tout. Motion de Little Eva, un jitterbug endiablé au début de Mulholland Drive, et même le hardcore de Sailor et Lula, un pays en soi, vous dis-je. Autant vous dire que j'étais aux anges, et j'allais l'être plus encore le jour où je basculais dans la chambre rouge de Twin Peaks, où une étrange créature dansait. Glissait doucement vers le Silencio et sa trompette invisible. Avant d'entrer au Luna Lounge et d'être réveillé par le sax furieux de Bill Pullman. Je n'étais pas encore au bout de mes surprises. J'entrais au One Eye Jack, mais là c'était une autre histoire. Je comprenais une chose, au pays de Lynch, la musique était du sexe pur, et ça devenait vite dingue. J'étais sans voix, et je regardais hébété les femmes se déshabiller, se caresser, s'embrasser, s'aimer, au son de la musique de Rammstein ou d'Angelo Badalamenti. Ça aurait pu durer toute la vie, mais en entendant une chanson lointaine, j'ai finalement compris que j'étais in heaven, je veux dire au ciel, dans les limbes, dans l'empire intérieur. Finalement, c'était ça, Au pays de Lynch, la musique c'était du rêve. Une manière de plonger dans le corps astral au milieu des fantômes.
Je me demande où vous pouviez bien aller.
Malalon Drive. Oui, Malalon Drive. C'est là que j'allais.
C'est en rêve que je me suis vu dans Swinky.
Et après ?
Il n'y a pas d'orchestre. Et pourtant, on entend un orchestre.
Tiens, Camille, la voiture attend. C'est la fille.
C'est ici que tu descends.
Vous comprenez, j'arrive tout droit de Deep River dans l'Ontario et je me retrouve dans un vrai palais.
Un grand malheur va frapper. Une personne a de graves ennuis.
Je sais pas s'il y avait un passager de plus, il s'est peut-être barré.
J'ai bien l'impression.
Silencio. Silencio.
En sortant de là, j'ai repris la route, mais c'était une route perdue au milieu de nulle part où l'on entendait David Bowie. La musique m'avait monté à la tête, Oui, j'étais définitivement dérangé. Finalement, un jour, j'ai eu l'impression de ressusciter. Et là, j'ai entendu une drôle de mélodie. Une mélodie suave, sensuelle, légère. Étais-je encore au pays de David Lynch ? Et oui, et finalement, j'avais enfin touché le paradis. Et au pays de David Lynch, le paradis s'appelait Incensates d'Antonio Carlos Jobim.
Is the 90-year-old niece here? Ever since we went into pre-production, he's been fascinated by Smithy. He keeps going on and on about Smithy. Asking in that ancient foreign voice of hers, who is playing Smithy?
Where did everyone go?
I'm sorry, he's taken Mr. Berg upstairs.
All right.
I'm listening to you, but I don't hear you.
I'm not exactly sure what you're getting at.
I'm going to put my arm around you. I want to hold you close. You don't mind that, do you?
What do you mean?
Well, sometimes people don't say exactly what they mean. And you have been guilty of this all evening.
They're pretty, baby. Nice.
Sweet. Thanks, guys.
Voilà, coupé net le Locomotion de Little Eva, coupé net la scène d'Inland Empire où un groupe de femmes dansait pour oublier la fureur des hommes, coupé net l'émotion qui faisait du bien. Et nous voilà de nouveau dans la rue, dans la nuit, dans un silence jamais muet, seulement peuplé de cris étouffés, d'appels à l'aide auxquels personne ne répond, de sirènes de police qui passent mais trop loin pour nous sauver, nous laissant à blanc, nus, au milieu de nulle part. Inland Empire est à ce jour le dernier film de Lynch. Il est aussi le sommet de sa trajectoire, un manifeste artistique d'une liberté totale, zigzagant aux frontières du cinéma sur une route zébrée de ces fameuses lignes jaunes qu'il n'a jamais cessé de transgresser.
Thank you.